En face de nous, nous avons Lily Instinct, la nouvelle directrice artistique du Festival Entrevues. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors juste pour vous faire une rapide présentation de ce qui va se passer ce soir jusqu'à 20h avec nous. Comme je viens de le dire, la nouvelle directrice artistique du Festival Entrevues est avec nous. Donc nous lui parlerons de cette nouvelle prise de fonction et de cette sublime programmation que nous avons eu l'occasion d'entrevoir dès notre arrivée hier soir. Nous recevrons aussi Benoît Basirico, qui est donc journaliste spécialisé en musique de film, qui donnera une conférence demain à 14h sur les réalisateurs-compositeurs. Et nous recevrons également Tarek Samy et Lucie Desch, réalisateurs du documentaire Chantier A un petit peu plus tard. Voilà, alors Lily, donc vous êtes directrice artistique du festival depuis peu. Comment se passe cette première édition pour vous ?
Mais très très bien. Je suis très contente d'avoir fait ce travail-là cette année. C'est vrai que j'ai commencé très tard. J'étais nommée au mois de juin, à la fin du mois de juin, ce qui laisse très très peu de temps pour faire une édition. Voilà, on a donc programmé l'ensemble du festival très très vite, et dans un certain sens, ça révélait aussi des désirs très très forts. On ne s'est pas posé trop de questions. Je me suis pas posé trop de questions. J'ai choisi, voilà, de façon assez instinctive les cinéastes que j'avais envie de montrer. Là, je parle de tout le travail sur les rétrospectives, puisque ça, c'est un travail qu'on va faire très en amont, alors que la compétition, ça se passe un peu différemment au niveau du travail, puisque là, il y a un travail de sélection de films qu'on reçoit, qui se sont inscrits ou que nous, on va aller voir dans différents festivals. Et donc là, il y a, on va dire, un timing un peu différent qui était... Qui pouvait se rattraper de manière un peu plus paisible. Voilà.
Alors, juste histoire de faire les présentations à nos auditeurs qui nous écoutent, et plutôt que de la faire moi, je préférais que vous nous parliez, vous, de votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver ici, en fait ?
Alors, avant d'arriver à Entrevues, j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Je crois que ma première expérience de cinéma, en fait, elle remonte à la classe de terminale, puisque j'étais en terminale au moment du centenaire du cinéma, en 1995. Et j'ai eu la chance inouïe que notre professeur de philosophie s'inscrive dans un projet de la Cinémathèque qu'ils ont lancé cette année-là pour fêter les 100 ans du cinéma, qui s'appelait Jeunes Lumières, où il y avait des classes de toute la France et de tous les âges. Donc il y avait des enfants de 8 ans jusqu'à des jeunes de 17 ans comme nous qui participaient à ce projet-là. Donc c'était les 100 ans du cinéma, ça se divisait en deux volets, un volet lumière, un volet Méliès. Et donc toute l'année, avec un intervenant, on a revisité et découvert complètement les origines du cinéma, son histoire. On a fait un film. Et donc je dois dire que voilà, c'est aussi une part de hasard, mais j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance et j'ai rencontré un monde qui m'a passionnée. Après, pendant mes études, donc on était des jeunes gens, comme tous les jeunes gens, rêveurs et utopistes. Donc avec des amis avec qui je partageais cette passion du cinéma, on s'est très vite dit, avec toute la naïveté... qu'on avait, qu'il fallait qu'on fasse nos films de la façon la plus libre possible. Donc j'ai créé une petite société de production. Donc j'ai commencé en même temps que je faisais des études à la fac, donc à faire de la production de films. Donc là, j'ai produit surtout des premiers films. Et au bout de quelques années, on m'a proposé de partir à Rome, à la Villa Médicis, pour m'occuper de la salle de cinéma qui est là-bas. Donc là, pendant 4 ans, j'ai programmé cette salle de cinéma. Donc je me suis mis à faire de la programmation de films. Voilà, et ensuite je suis rentrée en France. J'ai travaillé à Cinéma du Réel, qui est un festival international de documentaires au Centre Pompidou à Paris. Et j'y ai travaillé jusqu'à l'année dernière. Enfin, j'ai fait la dernière édition en mars. Et puis ensuite, j'ai postulé pour venir à Belfort. Et voilà, c'était un recrutement très démocratique. On a beaucoup de chance en France que de pouvoir... enfin, comme j'ai beaucoup travaillé en Italie, je me rends compte de la... Enfin, de l'importance que ça a de pouvoir proposer un travail. Donc j'ai proposé un projet pour le festival et que ce soit pas politique, qu'il faille pas connaître des gens. Ou, voilà, donc me voilà à Belfort.
Et alors, qu'est-ce que, enfin, par rapport à ce que vous connaissiez du festival, qu'est-ce qui dans le projet vous a motivé, autant dans le projet qui existait alors que dans son histoire, à postuler ?
Alors en fait, pour je crois que pour tous les professionnels du cinéma, Entrevue, c'est vraiment un très grand festival. Il a une histoire de découverte assez époustouflante. Donc quand on travaille dans le cinéma, que ce soit la production ou la programmation, c'est un festival qui a une portée symbolique extrêmement forte. Donc c'est un festival que je connaissais très bien, dont je suivais la programmation. Que j'admirais énormément, puisque si on regarde l'histoire du festival, le mot qui peut paraître un peu cliché ou de découvreur de talent, je crois, prend pleinement son sens quand on regarde les cinéastes qui ont été montrés, quand on voit que le premier court-métrage de Miguel Gomez était montré Entrevue en 1991. Ça fait quand même 20 ans et c'est aujourd'hui qu'avec Tabou, Miguel Gomez devient un cinéaste vraiment internationalement reconnu, avec un cinéma de recherche, de liberté, d'invention totale. Et c'est une mission évidemment qui me tenait à cœur, puisque en faisant de la production de films et en produisant des jeunes auteurs, j'étais déjà dans... cette ambition-là et c'est aussi beaucoup le travail que j'ai fait à la Villa Médicis, qui est un endroit qui, comme vous le savez, a aussi une mission d'accueil de jeunes artistes, donc dans plusieurs disciplines, mais c'est le cœur du projet aussi de la Villa Médicis. Et voilà, et je trouve que le projet éditorial, on va dire, de fond du festival, qui est assez original et assez rare, de mêler cette présentation des jeunes cinéastes, des futurs, enfin pas des futurs cinéastes puisqu'ils sont là au présent, mais voilà, des jeunes cinéastes qui sont en train d'inventer des gestes et de proposer ça avec des rétrospectives patrimoniales et une façon de revisiter à côté de ça l'histoire du cinéma. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles façons de programmer qui soit. Et donc, ça m'intéressait énormément de travailler comme ça.
Alors, en même temps, vous continuez l'histoire de ce beau festival. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous apportez aussi votre plume au festival, puisque vous venez de Cinéma du Réel, qui fait la part belle au documentaire. Et j'ai l'impression que cette année, enfin, c'est la réflexion qu'on se faisait hier soir, c'est qu'il y a plus de documentaires que les autres années. Est-ce qu'on se trompe ?
Alors, je vous remercie en tout cas de dire ça. J'espère effectivement que j'apporte quelque chose au festival. Je pense que j'apporte plus un regard ou une façon, vraiment une programmation. C'est comme si on construisait... pas un immeuble, mais une petite ville. Il y a plein de bâtiments et ils doivent se compléter, se répondre, se regarder, se traverser, se visiter tous. Sur la question du documentaire, non, je pense pas. Tout simplement parce que pendant très longtemps, à Entrevue, il y a eu une compétition documentaire et une compétition fiction. Donc, dans ce sens-là, il y a eu pour construire une compétition uniquement de documentaires, forcément beaucoup de documentaires, voire plus, enfin beaucoup, c'était entre 8 et 12 films à chaque fois, mais donc c'est quand même un certain nombre. Je pense que la décision de Catherine Bizerne, donc la précédente directrice artistique, d'abolir cette distinction était une décision que de nombreux festivals ont prise et qui est complètement pertinente, enfin qui tombe sous le sens, puisque cette distinction dont certaines parties de la critique avaient l'air de redécouvrir la porosité entre les deux. Bon, en fait, ça, justement, en ayant travaillé sur Lumière et Méliès, j'étais bien placée pour savoir que depuis le début, cette porosité entre les deux genres existe, puisque les films des frères Lumière sont complètement mis en scène, et que dans Méliès, il y a vraiment, avec ses effets spéciaux devant la caméra, une part de documentaire. On a l'impression d'être en studio avec lui et de voir comment il disparaît ou comment il fait exploser les choses. Donc cette ambiguïté, ce mélange des genres existe depuis le début du cinéma. Robert Flaherty, Nanook l'Esquimau, enfin, c'est pas une nouveauté, mais il était temps de s'en rendre compte, je dirais. Et c'est vrai, par contre, au-delà donc, de cette... c'est vrai, par contre, qu'au niveau économique, au niveau de la diffusion des films, les deux mondes se rejoignent plus qu'avant. Et effectivement, ça n'avait pas vraiment de sens. Il y a aujourd'hui beaucoup de films où la question se pose, est-ce que c'est une fiction, est-ce que c'est un documentaire? Oui, c'est... Et ça, c'est dommage de devoir choisir la case dans laquelle on va le mettre. C'est pas intéressant. Donc c'était un choix que je trouvais complètement pertinent. Et effectivement, on a gardé ça. Et aujourd'hui, les gens viennent voir Entrevue, une compétition internationale de premier, deuxième ou troisième film, peu importe le genre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaires cette année, mais là vraiment je crois que le documentaire est un lieu de liberté et d'innovation formelle très très fort dans le cinéma mondial, pas du tout français, mais vraiment mondial. Pour des raisons aussi économiques, tout simplement, de production. Enfin, Et donc, c'est aussi pour ça. Je crois que nous, on cherche vraiment dans les films cette liberté de geste, de ton. Là, il y a quelque chose qui se joue très fort cette année particulièrement, effectivement.
Et ça veut dire que les jeunes réalisateurs se tourneraient plus aujourd'hui vers le documentaire?
Alors je ne sais pas s'ils se tournent plus aujourd'hui vers le documentaire, mais je crois que sans se poser cette question-là, justement, ils ne se posent plus cette question-là. Mais par contre, aujourd'hui, dans le monde, il y a des jeunes gens qui peuvent trouver une caméra et faire un film. Et il y en a un certain nombre d'entre eux qui filment ce qu'il y a autour d'eux. Et donc... documentaire ou pas documentaire, en tout cas, ils sortent des rails de la fiction classique qui demande des moyens différents, qui demande un financement, en général des financements très 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 longs, et dont toutes les étapes, je veux pas généraliser, mais c'est quand même un peu vrai, donc quand même beaucoup d'étapes constituent un formatage. Donc à chaque étape, il y a un petit formatage en plus. Et je crois que c'est très difficile de faire ce qu'on veut dans un film de fiction aujourd'hui. Au niveau du scénario, le scénario, c'est l'outil de base pour trouver de l'argent. Donc c'est un texte. Donc ce texte, il va être lu par des financeurs, publics ou privés. Donc il faut correspondre à ce qu'ils attendent. Donc il y a tout un tas de gens qui passent là-dessus pour dire ce qu'il faut faire. Enfin voilà, on est perpétuellement dans un... Ensuite, il y a la question du casting. Alors pour avoir de l'argent, il faut des acteurs. Donc si quelqu'un veut faire un premier film avec les gens qui sont autour de lui parce qu'il a envie de les filmer, parce que voilà, c'est des êtres, des corps qui l'intéressent, mais c'est pas des noms, ça va être beaucoup plus difficile. Donc on va lui dire non, il faut que tu prennes un acteur. Donc ensuite, c'est vraiment... Après, il y a des productions qui balisent aussi au niveau technique. Un jeune réalisateur, ils vont lui adjoindre un vieux routier à l'image. Alors c'est quelqu'un qui aura des réflexes de sécurité qui seront pas... Donc c'est vrai, c'est un enchaînement de sécurité. En fait, on est dans la sécurité. Dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, il faut de la sécurité. Et la sécurité, malheureusement... n'est pas le lieu de l'innovation ou de la liberté.
Fabien Velasquez.
Alors, au regard de votre parcours très riche, je dirais, par rapport rapport à vos expériences passées. Là, on vient de parler du documentaire et je voudrais vous interroger sur un film assez rare qu'on a vu en tout début de festival dimanche dernier. C'est Thomas Johnson, cette pépite d'Orson Welles. Et je me demandais si c'était votre passage en Italie qui vous a aidé à obtenir ce film pour la troisième diffusion mondiale, après l'Italie où il a été découvert, et puis New York, comme vous avez été à Rome. Est-ce que ça vous a aidé à avoir ce film pour Belfort, qui était, je dirais, comme j'ai eu la chance de le voir, vraiment une réelle pépite, quoi.
Un grand événement. Écoutez, je me suis posé la question, je ne sais pas, c'est vrai que voilà, j'ai téléphoné au directeur de la Cinémathèque du Frioul, on s'est parlé italien, bien sûr, on s'est écrit, c'est évident que ça facilite... Le rapport, ça crée un autre rapport de parler la langue de quelqu'un et de pas passer par l'anglais qu'on parle tous un peu mal et où chacun donc c'est peut-être moi j'ai tout simplement ça fait partie de mon travail, je regarde ce qui se passe, j'ai donc appris la découverte de ce film d'Orson Welles qui a été miraculeusement retrouvé et montré à Pordenone. Il y avait une collaboratrice du festival, Prisca Morisset, qui est historienne du cinéma et qui a fait avec nous la programmation Cinéma Histoire, qui allait à Pordenone, donc aux journées du cinéma muet, où le film était présenté en première mondiale. Donc je lui ai demandé d'aller à la projection, de regarder, de nous raconter, de nous dire si c'était bien, enfin... Donc voilà, elle nous a raconté, on a demandé le film, on a discuté, on a expliqué ce qu'on allait faire et ils ont accepté.
Et peut-être, même si c'est difficile de parler à la radio d'un film, et peut-être que pour certains des auditeurs qui ne l'ont pas vu, mais juste encore vous faire réagir sur, en tout cas, une séquence qui m'a réellement interpellé, et puis j'en ai parlé avec un ami qui travaille au centre chorégraphique ici à Belfort, c'est cette scène des chapeaux. Est-ce que vous pouvez la décrire, même si c'est un exercice difficile?
J'en ai parlé aussi, avec, peut-être c'était Noël Claude.
Oui, c'est lui.
J'en ai parlé aussi avec lui. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir qu'un chorégraphe, enfin quelqu'un qui travaille là-dessus, ait vu ça dans le film. C'est une scène absolument stupéfiante. En fait, avant tout, il faut dire que ce film, alors qu'on appelle un film et qui, comme vous avez pu assister à la séance, est plutôt un matériau cinématographique, donc une copie de travail montée par Orson Welles, mais qui n'est pas encore ce qu'on appelle un ours, un premier montage abouti. Il y a plein de séquences qui se répètent, il y a plusieurs prises de la même scène qui se succèdent. Voilà. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est un film burlesque, et ce qui ne caractérise pas vraiment l'œuvre d'Orson Welles. Donc c'était effectivement une découverte stupéfiante. Il y a un talent de mise en scène, là on voit qu'il va totalement au-delà du genre, puisqu'il n'a pas du tout travaillé là-dessus, et pourtant là dans le burlesque, il y a une virtuosité de la chorégraphie, puisque le burlesque c'est de la chorégraphie, et effectivement il y a cette scène où il y a une poursuite entre deux hommes coiffés tous les deux de canotiers, dans des entrepôts de Manhattan, donc c'est un film de 1938, mais l'histoire se passe au début du siècle ou même fin 19e, et donc Orson Welles a trouvé ces entrepôts qui sans âge qui restent à New York des 50 ans avant là, du moment où se déroule l'action. Ils sont entre des grandes palettes de bois, ils se poursuivent et c'est filmé de haut. Et c'est une sorte de danse de canotier en haut, enfin vue d'en haut au-dessus des palettes. Donc on voit deux petits chapeaux qui dansent en fait. Effectivement, enfin c'est très beau que quelqu'un qui travaille sur la danse ait été si touché. Et je pense que ça peut donner des idées à des chorégraphes ou des danseurs. Et
c'est vrai, quasiment une partition filmée, quoi.
Exactement. C'est vrai que c'était.
Vous nous disiez, Lily Instinct, que faire une programmation d'une première édition de festival, c'est construire une petite ville. Donc c'est vrai qu'en plus, cette première édition, c'est une transition, d'autant que vous êtes arrivé, vous avez été nommé assez tardivement. Mais c'est vrai que Cécile Baker le disait, il y a déjà des gestes, enfin, on voit déjà votre présence, notamment dans La Fabrica. Donc La Fabrica, c'est une rétrospective. Qui entend se consacrer à un réalisateur et convoquer autour de lui sa famille, des gens avec qui il a travaillé. Alors pourquoi avoir choisi pour cette première Fabrica d'inviter Jacques Doyon, Lily Instinct?
Alors, pourquoi Jacques Doyon ? Parce que j'ai vu au dernier festival de Berlin son dernier film, donc Mes séances de lutte, donc c'était au mois de février dernier, que j'ai été absolument époustouflée par la liberté du geste, le retour à une veine presque expérimentale, et un film voilà, qui m'a extrêmement surpris, et je me suis... je me suis rendu compte à quel point Jacques Doyon est un cinéaste qui est capable d'inventer un geste différent à chaque film, et à quel point c'est pas du tout un cinéaste qui creuse son petit filon, même si bien sûr Jacques Doyon c'est le cinéaste de la direction d'acteurs et des acteurs, et quand je l'ai rencontré pour la première fois il m'a dit moi mon métier c'est faire quelque chose à des acteurs. Donc oui, ça bien sûr on va le retrouver dans tous ses films, depuis le premier jusqu'au dernier, mais dans la mise en scène, le projet de cinéma, l'histoire qu'il va raconter, l'univers qu'il va explorer, c'est quelqu'un qui est, je crois, très à l'écoute de ce qui traverse en plus la société. C'est quand même, je sais pas, le premier cinéaste français, et seulement en 2003, qui raconte... une histoire d'amour ou d'amour et de désir et en même temps de marchandage de ce désir-là entre une jeune domestique marocaine et un bourgeois français.
C'est dans Raja, non ?
Dans Raja, donc un film de 2003 qui sera montré vendredi soir en présence de Pascal Grégory, l'acteur, et de Lola Doyon, l'assistante réalisatrice du film. C'est un sujet dont... n'importe quel cinéaste français, en plus dans un pays où il y a aussi des cinéastes d'origine marocaine, enfin dont des cinéastes auraient pu s'emparer bien avant. Et c'est Doyon qui le fait, voilà, en 2003. Pareil pour le film Petit Frère, pareil pour le film Le Premier Venu. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui crée des films. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de jeune cinéaste perpétuel. Et comme le projet d'entrevue, c'est aussi les jeunes cinéastes, ça me paraissait une très belle manière de commencer le projet, voilà, d'inviter quelqu'un qui a vraiment participé à la modernité du cinéma.
Et pour vous, personnellement, c'est quelqu'un d'important dans votre parcours, Lilian Stein, puisque vous avez été stagiaire sur Ponette.
Oui,
c'est... lorsque vous étiez adolescente.
Oui, alors j'avais 18 ans, j'étais encore un peu adolescente. Mais, oui, il se trouve que j'ai eu la chance qu'on me propose de venir sur le tournage de Ponette. J'ai été stagiaire pendant une dizaine de jours avec les enfants, donc dans le sud de la France, sous la neige. Je pense que j'étais une très mauvaise stagiaire. J'ai très mal travaillé parce que je regardais beaucoup le tournage, et sur un tournage il faut être attentif, on n'est pas là pour regarder, mais voilà, j'ai effectivement eu la chance de le voir travailler et avec ses tout petits enfants, puisque les acteurs de Ponette avaient 3 ans et demi, oui, et 4 ans. Donc c'était effectivement absolument passionnant.
Alors moi, ce que je tiens aussi à signaler, et on en parle beaucoup à chaque édition d'entrevue, c'est que tous les cinémas sont représentés. Alors juste avant de vous quitter, parce que je crois que vous devez partir, voilà, moi on trouve des films de Jacques Doyon, on trouve des films d'Orson Welles, qui sont des choses, enfin a priori moi quand j'ai commencé à regarder le cinéma, qui sont plutôt considérés comme pointus. Mais on trouve aussi, par exemple, dans la Commedia des ratés, Frangin malgré eux, qui est un film très contemporain. Et alors, qu'est-ce qu'on rigole, quoi ? Et qu'est-ce qui vous intéresse à aller dans ces extrêmes-là, où on a tous les cinémas, en fait ?
En fait, pour moi, le cinéma, c'est pas... Moi, ces frontières-là, je pense que... Enfin, pour moi qui travaille dans le cinéma et qui, bon, voit beaucoup de films, je vois plus ces frontières-là, en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les films, le point de vue de quelqu'un, le travail d'un réalisateur, et il existe partout. Enfin, c'est vrai que, voilà, Frangin malgré eux, c'est un réalisateur et des acteurs. Là, ça passe énormément par les acteurs qui dynamitent complètement la société américaine. Il y a un travail de cinéaste qui m'intéresse. Donc oui, j'ai envie qu'on... pour moi, le projet, c'est pas du tout d'avoir un peu de tout, mais c'est tout simplement de construire une réflexion de cinéma. Là, avec la Comédia des ratés, on se pose une question de cinéma sur le genre. Donc là, en l'occurrence, c'est la comédie. Et comment ce genre-là a été abordé sous toutes ces différentes facettes à différentes époques. Et voilà, je vais à chaque fois chercher un film qui raconte ça à sa manière et de préférence une manière originale et personnelle qui fait que chaque film est unique. Donc, voilà.
Merci. Alors on continuera demain d'explorer cette fabuleuse programmation donc, entre la compétition internationale, La Fabrica avec Jacques Doyon. John Carpenter présente, ça aussi il faut le dire parce que c'est très très intéressant, donc c'est des films de John Carpenter qui sont mis en lumière avec une sélection de John Carpenter, la Comédia des ratés, faite à l'attraction pardon, cinéma histoire et des séances spéciales et jeune public. Merci beaucoup Lilian Stein.
Merci à vous.
Et puis on se retrouve demain.
À
bonne
demain.
Soirée.
Au revoir.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.